Bienvenue à toutes et à tous pour cette soirée. Alors, on a la chance ce soir d'accueillir donc Hervé Mazurel, qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne, hein, à Dijon, que je vais présenter rapidement, et puis on va en venir au livre qui nous occupe. Alors, Hervé a travaillé en thèse de doctorat sur une guerre bien particulière, hein, souvent oubliée, et ce livre s'appelle « Vertige de la guerre, Byron, les Philhellènes et le mirage grec », publié aux Belles Lettres en 2013, et donc c'est cette guerre hein, du 19e siècle, de 1830, des années 1820. Et puis par la suite, il a continué sa trajectoire de recherche, alors je le signale, hein, en étant l'inventeur, le responsable d'une revue qui s'appelle « Sensibilité, histoire, critique et sciences sociales » aux éditions La Découverte, et dont les derniers numéros hein, s'intéressent à des sujets aussi ambitieux que « La société des rêves » pour le numéro 4, ou « Controverse sur l'émotion ». Vous allez me dire, on est venu ce soir écouter un livre sur la guerre, et je vous parle de rêves et d'émotions, et pourtant, c'est pas si éloigné que ça, puisque ce livre, qui est l'objet de notre soirée, « Une histoire de la guerre » du 19e à nos jours, et qui a été dirigé par Bruno Cabanne, cette histoire de la guerre, elle n'est pas simplement une histoire militaire, traditionnelle, même si il y a de l'histoire militaire, c'est une histoire de la guerre et pas l'histoire de la guerre, parce qu'elle va essayer de faire un choix et de présenter ce fait social total qu'est la guerre sous tous ses aspects, sous tous ses angles. L'angle du front, l'angle de l'arrière, l'angle des combattants partisans, des guerres périphériques, des guerres asymétriques, et d'essayer d'éclairer d'une certaine manière hein, le fait de la guerre dans les deux derniers siècles en Occident sous toutes ses facettes. C'est assez impressionnant quand on lit la table et quand on voit bien évidemment hein, la taille des 791 pages de ce qui se présente comme un livre aussi total que l'est le fait social de la guerre. Alors, je ne sais pas si vous étiez là les dernières fois, mais ça me rappelle ce livre qui est sorti il y a maintenant un an, qui s'appelait « Europa, notre histoire hein, », ce gros livre à la jaquette bleue qui avait réuni plus de 120 auteurs autour de la question des héritages de l'Europe. À mon avis, hein, avec ce livre qui là compte 57 auteurs anglo-saxons ou européens, on est dans une somme du même ordre, une somme qui vise à synthétiser, si vous voulez, tout en ayant une écriture accessible, l'ensemble des connaissances que l'on a sur ce fait social. Alors, la liste des historiens et historiennes est intéressante, hein, je ne vais pas tous les citer. On a la crème de la crème des historiens anglo-saxons, Hugh Strachan, ça se dit Storn, mais je vais dire Strachan en anglais, John Horn, Leonard V. Smith, Heather Jones. Côté français, quasiment tous les plus grands spécialistes de la Première Guerre mondiale, comme Stéphane Audouin-Rouzeau, mais aussi des autres guerres. Hein. Je pense à Raphaël Branche pour la guerre d'Algérie, Hélène Dumas pour le génocide rwandais, Christian Ingrao pour la Seconde Guerre mondiale et les nazis. J'en profite pour dire qu'il sera ici la semaine prochaine pour présenter sa biographie d'Adolf Hitler. Et donc vous avez comme ça une multiplicité de points de vue qui vont essayer, à travers quatre grandes parties, hein, d'éclairer toute la variété, toutes les diversités des formes de la guerre dans les 250 dernières années, hein, de 1790 à nos jours, mais en essayant aussi de montrer un élément d'unicité. Alors pour notre soirée, pour l'heure qu'on va passer ensemble, on va discuter avec Hervé, hein, et ensuite, évidemment, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez envie de poser. J'ai préparé un certain nombre de questions qui vont permettre à Hervé, qui était coordinateur du livre, un des coordinateurs du livre, d'éclairer un petit peu l'originalité de ce travail et les éléments importants qui en font vraiment quelque chose d'intéressant à lire. Alors Hervé, ma première question, elle est toute bête. Moi, je le dis tout de suite, il n'y a pas de problème. Je suis né en 1981. Mon seul rapport aux militaires, ça a été une journée d'appel d'une journée et demie sur la base militaire de Satory à côté de Versailles. Et donc, très clairement, en essayant de parler, de dire d'où je parle, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas versé dans la question des armes, dans la question de la guerre, même si il m'est arrivé, pour l'anecdote, de tirer avec des armes à feu dans un stand de tir en Ukraine, parce que c'était pas cher, mais voilà. Et donc, pour rendre les choses un peu plus sérieuses, Est-ce qu'un tel livre, finalement, n'est pas un livre symptôme qui montre que plus la guerre s'éloigne de notre Europe, alors géographiquement, hein, il y a la guerre en Syrie, des guerres, il y en a toujours, mais plus elle s'éloigne de la terre d'Europe, du territoire européen, et plus elle s'éloigne chronologiquement, hein, le dernier grand conflit cataclysmique, c'est la Seconde Guerre mondiale, et ensuite il faut compter effectivement la guerre d'Algérie. Mais est-ce qu'un tel livre n'est pas là finalement pour nous montrer que la guerre devient de moins en moins compréhensible à mesure qu'elle s'éloigne de notre horizon? Voilà pour la première question.
Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup d'être là. Et merci à toi de cette présentation et de cette question. Il me semble en effet que ce dont il faut partir, c'est bien de ça, cette étrangeté croissante de la guerre. Parce qu'au fond, on vit depuis 1945, mais peut-être encore plus depuis les années 70, dans ce qu'on appelle un mouvement de déprise de la guerre. On a de moins en moins de gens en Europe et même aux États-Unis ont une expérience directe d'un conflit, une expérience concrète et vécue d'un conflit. Et du coup, voilà, il y a une distance plus grande à l'égard de ce qu'ont pu être les expériences de guerre d'autrefois. On assiste aussi à une démilitarisation de nos sociétés, du fait d'abord de l'abandon du service militaire, qui n'a pas eu lieu toujours au même moment. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'était plus tôt, c'était en 1957, aux États-Unis en 1973. Mais ces deux pays qui avaient toujours eu du mal avec la conscription, avec le service militaire, qui l'avaient adopté très tard, pendant la Première Guerre mondiale. En France, vous le savez, le service militaire a été, non pas supprimé d'ailleurs, mais suspendu en 1996. Et je me retrouve dans la même situation que toi. J'ai ce qu'on appelait les trois jours. Moi, c'était une demi-journée au même endroit que toi, d'ailleurs, à Satory, à Versailles. J'ai pas d'autre expérience militaire que celle-là, et elle est vraiment très, très minimale. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il y a une professionnalisation des armées depuis ce moment-là, depuis la suppression du service national, fait que, en quelque sorte, les soldats sont devenus de plus en plus éloignés du monde civil. Déjà, ils vivent souvent dans des mondes à part, dans des casernes, loin de nous, civils. Et donc, il y a une distance croissante qui s'est créée avec les militaires. Alors, évidemment, on les a vus revenir dans l'espace public après les attentats de 2015. Et je pense que vous avez dû sentir aussi une forme d'étrangeté à voir ces hommes en armes, à la fois un peu rassurant et en même temps, c'est toujours bizarre de voir des hommes qui ont le droit de porter des armes dans l'espace public avec des fusils mitrailleurs. On se dit, voilà, ils ont le pouvoir éventuellement d'ouvrir le feu dans certaines conditions bien particulières. Hein, mais voilà, il y a cette étrangeté. Le civil et le combattant sont de plus en plus étrangers l'un à l'autre. Et donc, on n'est plus du tout familier de ces univers-là. Hein. John Keegan, un historien dont on reparlera sans doute, disait que les soldats ne sont pas des hommes comme les autres, parce qu'ils ont justement d'autres valeurs, d'autres devoirs que nous, et notamment celui d'avoir à tuer et d'être autorisé à tuer. Et du coup, un livre comme celui-là, c'est un livre pour essayer de comprendre des conflits qui le sont de moins en moins, qui nous le sont de moins en moins, qui nous sont de plus en plus étrangers. Hein, même la guerre de 14, qui n'est éloignée de nous que de 100 ans, en fait, elle est, du point de vue des mentalités, des sensibilités collectives, de l'atmosphère mentale de ce temps-là, elle est très loin de nous. Hein, et il s'agit donc de retrouver ces guerres, d'essayer de leur redonner du sens à nos contemporains. C'est un peu le projet du livre, d'un rapport entre ce qui est devenu si étranger, d'essayer de se refamiliariser avec la guerre. Voilà.
Et en même temps, on sait que quand les historiens commencent à travailler sur un sujet, c'est que clairement, il y a un niveau de poussière qui s'est peut-être accumulé dessus et qu'il y a toujours cette tension de dire que quand on historicise, on renvoie un fait peut-être actuel vers le passé. Mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui va nous amener notamment aux questions suivantes. Alors j'avoue, quand j'ai ouvert le livre, un peu bêtement, historien quand même, je me suis posé la question de la chronologie. Alors que ça commence en 1790, ça c'est pas un problème, 1789, et puis ce que la Révolution française va faire au rapport à la guerre, et que ça s'arrête maintenant, il n'y avait pas de problème. Mais je m'attendais un peu, je me disais, bon, qu'est-ce qu'ils vont avoir choisi dans un tel sujet aussi large, la guerre en Occident et dans le monde sur 250 ans, quelle chronologie ils vont avoir choisi. Et le livre, en fait, casse complètement ça en proposant un ordonnancement thématique qui, d'une certaine manière, alors invite les chercheurs, mais ça, on en parlera après, à déborder. Vous savez, nous, en tant que chercheurs, on est sur une période, on déborde assez rarement. Et là, c'est vrai que la plupart des entrées thématiques, par exemple sur, mettons, la guerre des partisans, on va demander à un spécialiste de telle période d'écrire sur deux siècles. Donc ce que je trouve intéressant du point de vue de la gageure. Mais du coup, pour bien qu'on comprenne ce qu'il y a dans ce livre. D'une certaine manière, en posant cette question thématique, et c'est dit dans l'introduction, il y a une idée que quelque chose s'est passé qui fait qu'à partir de la Révolution française, la guerre n'est plus la même que celle d'avant. Et malheureusement, des guerres, il y en a eu des dizaines et des centaines depuis que Homo sapiens sapiens est sorti de sa pampa. Et notamment, vous avez un auteur, peut-être que vous avez connu, lu, hein, qui s'appelle Hanson, qui avait écrit un livre qui a beaucoup marqué, qui s'appelait « Carnage et culture », montrant que depuis les guerres du Péloponnèse, la guerre était une forme d'invariant. Ce livre-là dit tout l'inverse. Il dit « quelque chose s'est passé », alors avec pas forcément du flou, mais en disant que ça va être compliqué, et que le 19e et le 20e, une histoire de la guerre, il y a une unification, il y a quelque chose. Ce quelque chose, il est finalement vu par Clausewitz, qui dit « on est passé d'une guerre aristocratique, qui a des règles, qui est une guerre conventionnelle, qui respecte des conventions, à une guerre, dit Clausewitz, de tous contre tous ». Et plus seulement des rois contre des rois, mais de tous les peuples contre tous les peuples. Alors du coup, moi ça m'a beaucoup intéressé. Est-ce que dans les deux siècles que vous analysez, est-ce qu'il y a une unité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait la guerre moderne et qui ferait qu'on aurait un lien finalement avec les guerres du début du 19e jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce que c'est plutôt une sorte de polyphonie, de quelque chose de beaucoup plus varié?
Alors oui, juste un mot peut-être, parce que ça peut désorienter en effet... Un livre d'histoire où la chronologie n'est pas au cœur. Alors, il y a une très belle chronologie à la fin. Je dis très belle parce que ce n'est pas moi qui l'ai faite, ni aucun d'ailleurs des coordinateurs. Et donc, je me permets de le dire. C'est quelqu'un du Seuil, qui, Cécile Rey, que j'aime nommer parce qu'elle a vraiment fait un travail remarquable. Il y a une chronologie où moi, j'ai appris plein de choses en la lisant à la fin et qui aide beaucoup aussi ensuite pour se repérer dans le livre. Si on a choisi... une entrée plutôt thématique, hein. Il y a des thèmes très variés, il y a des thèmes classiques, hein, sur le stratège, sur la technologie, mais il y a des thèmes comme sur le corps, sur le psychisme, sur les rapports hommes-femmes, sur les enfants-soldats, sur l'environnement, ce que la guerre fait à l'environnement, des choses comme ça. Hein. Si on a choisi cela, c'est parce que, en fait, quand vous faites une histoire seulement chronologique, il y a plein de mouvements de fond, hein, des mouvements historiques silencieux, souterrains, que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes pris dans une chronologie serrée, hein, et vous ne voyez pas ces grands mouvements de fond, ces mouvements de bascule, parfois, historiques, et cette longue durée qu'il faut savoir appréhender. Et donc, en travaillant de manière thématique, on peut faire ressurgir ce genre de choses-là. Et si on a d'ailleurs intitulé ça « Une histoire de la guerre » plutôt que « L'histoire de la guerre », c'est pour dire aussi... Il y a plein de manières d'entrer dans cet objet qui est un objet protéiforme. Clausewitz disait que c'est un caméléon, la guerre. Si on a choisi ça, c'est par précaution aussi, une histoire de la guerre, mais parce qu'on aurait pu faire d'autres modèles, d'autres choix narratifs, raconter ces deux siècles de guerre autrement que nous l'avons fait. Voilà, donc c'est un choix parmi d'autres qui était possible. Si on démarre dans les années 1789-1790, hein, c'est parce qu'il y a vraiment un moment là qui nous a paru vraiment clé, hein, pour répondre à ta question, c'est on passe des guerres d'Ancien Régime qui étaient des guerres dynastiques, c'est-à-dire entre roi et roi, ou entre armée et armée, comme dit Clausewitz, mais qui sont faites avant tout par des mercenaires, hein, avec des aristocrates dans les rôles d'officiers, et on bascule dans une autre ère qui est la guerre des citoyens-soldats, avec la Révolution française, le moment clé étant Valmy. Hein, Clausewitz, pour lui, la guerre a basculé à Valmy, avec ses engagés volontaires français en 1792, qui en quelque sorte ont intériorisé les buts de guerre, hein, et qui se battent de manière idéologique. Hein, et la guerre bascule là. On passe d'une armée de mercenaires à une armée de soldats citoyens. Et la conscription qui est établie en France, le service militaire qui est établi en 1798 en France, va ensuite être pris presque partout, sauf en Grande-Bretagne, en Europe. Hein, mais tout le monde va s'aligner, en gros, dans les décennies qui suivent, sur le modèle de la conscription. Et ce qui se met en place là, c'est ce qu'on a appelé la guerre moderne, hein, c'est-à-dire donc des armées de masse, des armées de conscription, mais aussi ce qu'amène la guerre moderne, c'est une mobilisation des sociétés beaucoup plus forte qu'autrefois, donc une mobilisation de l'arrière. Hein, en 1793, au moment où la France est menacée de toutes parts, il y a une levée en masse et on appelle les femmes, les enfants, les vieillards à se mobiliser, à faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir l'effort de guerre. Hein, donc, guerre moderne, c'est conscription, mobilisation de masse. C'est aussi un accroissement de la violence de combat aussi. On assiste à ce qu'on appelle une dynamique de totalisation de la guerre, c'est-à-dire comment le chemin vers la guerre totale débute à ce moment-là, sans doute. C'est-à-dire qu'avant, dans les guerres d'Ancien Régime, on ne combattait pas l'hiver, Hein, on se reposait, etc. Maintenant, on combat toute l'année. Et puis, petit à petit, hein, au fil du 19e siècle, la frontière entre les civils et les combattants va devenir de plus en plus poreuse. Hein, c'est-à-dire que la guerre va commencer à faire davantage de dommages hein, sur les civils qu'autrefois. Et c'est logique. Puisque les civils se mobilisent plus qu'autrefois à l'arrière, alors ils deviennent une cible hein, pour l'ennemi. On essaye de faire fléchir l'arrière pour que le front cède. Et cette logique-là, elle va devenir très, 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 très forte pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment. Hein, et au bout de cette et la dynamique de totalisation, qu'est-ce que c'est aussi? C'est que tous les interdits d'autrefois, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on va commencer à tirer sur les ambulanciers. Il n'y aura plus de ramassage des morts. Il n'y aura plus de trêve des brancardiers. Toutes ces choses qui existaient encore dans les usages de la guerre au XIXe siècle vont disparaître. Hein, la guerre déborde toutes les digues qu'on avait construite, notamment les digues juridiques, pour contenir, en quelque sorte, ces dommages. Hein. C'est ça, la dynamique de totalisation de la guerre. Et c'est une dynamique qui court tout au long du XIXe siècle et qui touche son point d'orgue pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, il y a à peu près 10% parmi les morts de la Première Guerre mondiale, parmi les 10 millions de morts de la Première Guerre mondiale, il y a 10% de civils. Seconde Guerre mondiale, 65 millions de civils. Hein, voilà. Donc voilà un peu la dynamique qu'on a essayé d'abord de construire. Mais cette guerre totale, cet âge de la guerre totale, c'est une guerre des États-nations, guerre interétatique. Hein, il faut des États forts qui sont capables d'organiser tout cela. Mais du coup, on s'est intéressé aussi à l'après, hein, à l'après 45, c'est-à-dire à un délitement de cet âge de la guerre moderne. Et aujourd'hui, on le voit bien, on parle de guerre sans arrêt. Nous sommes en guerre, hein, et notamment... dans cette période où le terrorisme nous a beaucoup occupés, c'est un acte de guerre, nous sommes en guerre. Mais le mot est resté guerre, mais ce qu'il recouvre a beaucoup changé, finalement. On n'a pas déclaré la guerre en France depuis 1939, les États-Unis n'ont pas déclaré la guerre depuis 1942, pourtant ils ont fait des guerres, tout comme nous, hein, nous avons fait des guerres en Afrique, au Moyen-Orient, mais voilà, ça a changé. Vous n'avez pas vu de mobilisation comme... On n'a plus vu de gens partir dans les gares comme en août 14, hein, avec ces scènes d'embrassade sur les quais. Tout ça a disparu. Hein. Le champ de bataille lui-même, c'est-à-dire qu'en Occident, on a longtemps, c'était pour revenir à Hanson, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un historien antiquisant, que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, mais il avait dans son livre « Le modèle occidental de la guerre » dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit « Les Grecs anciens n'ont pas seulement inventé le théâtre, la philosophie, la politique, etc. Ils ont aussi inventé une forme de guerre qui est restée qui a marqué profondément l'inconscient occidental, en quelque sorte. Les Occidentaux cherchent la bataille décisive. Ils veulent, quand ils combattent, ils cherchent la bataille décisive, c'est-à-dire qu'ils cherchent un affrontement qui permette d'emporter la victoire une bonne fois pour toutes. Et donc, le but de la bataille décisive, qu'est-ce que c'est? C'est de concentrer dans le temps et l'espace la brutalité, hein, la violence la plus extrême, mais pour emporter une décision. Et c'est pour ça que dans la culture de guerre occidentale, on n'aime pas la guérilla, on n'aime pas les guérilleros, on n'aime pas les terroristes, parce qu'ils ne fonctionnent pas sur ce modèle-là, sur ce modèle d'affrontement-là. Et ce à quoi on assiste, mais déjà ça depuis un peu le début du XXe siècle, c'est à la disparition de la forme de la bataille. Hein, on parle de la bataille de Verdun, on parle de la bataille de la Somme, mais en fait, la bataille de la Somme, je crois, c'est 5 mois. La bataille de Verdun, c'est 10 mois. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Stalingrad, c'est 5 ou 6 mois. Donc l'idée d'une durée très courte, hein, d'une brutalité ramassée dans le temps, a disparu. Et donc, en fait, ce ne sont pas vraiment des batailles. Le mot est resté. Mais ce sont des espèces de campagnes continues, en fait. Hein. Donc, en fait, beaucoup de choses... Derrière la pérennité du langage, derrière le mot « guerre » qui reste, le mot « bataille », en deçà... Hein, il y a vraiment des transformations de profondeur qui se sont opérées. Et aujourd'hui, c'est très étrange. Voilà, qu'est-ce que c'est, de quelle guerre parle-t-on, hein, quand on parle d'actes de guerre avec le terrorisme contemporain, hein. C'est aussi ça qu'on a voulu travailler. Il y a un long travail sur notamment la guérilla et la contre-guérilla. C'est un fil conducteur du livre. Hein, et pas seulement sur les formes de guerre classiques, interétatiques. Il y a aussi ça comme travail de fond.
Ça, c'est vrai que le livre a de nombreuses qualités, hein, notamment de faire le point sur les chiffres que tu donnais. Hein. Très souvent, là, je parle en tant qu'enseignant, nos étudiants, mon truc d'interro en première année, c'est combien il y a eu de morts pendant la Première Guerre mondiale. En général, Le Monde a réussi à faire dans le même article de dire que c'était 10 millions et 18 millions, ce que je trouve assez fascinant, enfin, dans le même numéro. Mais c'est vrai que ça fait un bon bilan et que ce que tu viens de dire, hein, ça montre bien, finalement... cette émergence de la guerre moderne comme un tout, comme guerre régulière, et en même temps, dit l'auteur David A. Bell, la difficulté qu'on a à penser les guerres asymétriques, qui, elles, finalement, passées 1945, sont toujours là, mais sans qu'on sache trop bien quoi en faire. Alors là, une question qui me tenait à cœur, que je vous disais en introduction, hein, que notre auteur est spécialiste pour ce qui est des guerres philhellènes des années 1830, aussi de 1820-1830, de ce désir de guerre qui nous paraît étrange aujourd'hui, puisque on le sait, hein, après la Première Guerre mondiale, la DDR, et puis après les grands massacres de la Seconde Guerre mondiale, on peut difficilement dire que la guerre est désirable, et même si, tu le rappelles, Manuel Valls appelait, essayer de se construire en tant que chef de guerre en appelant à la, je cite, « guerre d'extermination contre Daesh », on voit que cet objet n'est pas désirable. En revanche, si on en vient au XIXe siècle, hein, je me focalise sur cette partie-là, cette chronologie-là du livre, le XIXe siècle a été émaillé par des conflits nombreux, mais qui n'ont jamais ressemblé de près ou de loin à une conflagration, aux deux conflagrations internationales et mondiales qui le séparent, c'est-à-dire les guerres napoléoniennes, pour 1 660 000 soldats, ne serait-ce que pour la France, hein, qui reviennent, et la Première Guerre mondiale. Le XIXe siècle, il y a un auteur qui s'appelle Karl Polanyi qui l'appelait la paix de 100 ans, pour jouer avec cette question de guerre de 100 ans. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé dans un certain nombre d'articles, c'est qu'avec ce 19e siècle relativement pacifique, au sens où, ayant peu connu de conflits énormes, il y a un désir de guerre. Il y a surtout, chez certains romantiques, ce que Musset appelait le mal du siècle, ce qu'on appelle en allemand « Weltschmerz », la douleur d'être au monde, de ne pas avoir connu ces grands événements. Et j'aurais aimé que tu nous parles de cette chose qui s'est beaucoup éloignée, c'est-à-dire ce désir de guerre, cette guerre désirable, cette guerre qui va devenir la possibilité d'une épopée. Et quand on en est privé, finalement, la vie en paix apparaît un petit peu comme sans intérêt.
Merci pour cette belle question qui me touche au cœur, parce que tu sais que voilà, c'est vrai que c'était l'objet de ma thèse. La guerre peut-elle être un objet de désir, hein? Et pour nous, aujourd'hui, je pense que si on faisait un sondage comme ça, en tout cas, moi, je partage l'idée que la guerre, si on me demande d'en parler tout de suite, j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle est atroce, sordide et absurde. Hein, le pacifisme ambiant nous pousse plutôt dans ce sens-là. Et donc c'est très étrange d'imaginer que la guerre puisse être désirable ou qu'elle ait pu l'être. Et en fait, en travaillant sur le premier 19e siècle, sur le début du 19e siècle, sur l'époque romantique notamment, hein, ce qu'on découvre, c'est que la guerre, à cette époque-là, est avant tout belle et glorieuse. Elle est profondément héroïque. Héroïsante, la guerre au XIXe siècle. Et tu parlais de Musset tout à l'heure. Si vous ouvrez les premières pages de la Confession d'un enfant du siècle, qu'est-ce que Musset dit? Voilà, à quel point il s'ennuie dans un monde sans guerre. C'est parce qu'il est né autour de 1800 et qu'il y a toute une génération, la génération romantique, la génération du mal du siècle, qui en fait s'est retrouvée avec Waterloo en 1815, au moment où les guerres napoléoniennes s'arrêtent. Voilà, dans un monde post-héroïque, hein, sans champ de bataille, sans gloire possible, ils n'ont pas pu tutoyer l'héroïsme paternel. Ils ont vécu avec des pères qui rentraient chamarrés d'or, avec des cicatrices, des médailles, la gloire militaire. Hein. Et toute une partie de cette jeunesse romantique, privée de guerre, la désire. Et la désire aussi pourquoi ? Parce que ce qui s'est constitué à ce moment-là, c'est un modèle militaro-viril, hein, très puissant, qui, en quelque sorte, oblige les jeunes hommes, non pas seulement à connaître la vie de caserne et à être sous l'uniforme, mais à traverser un rite de passage qui est le baptême du feu. Hein, c'est le baptême du feu qui, en quelque sorte, permet, hein, à cette époque-là, hein, d'entrer dans ce que Pierre Bourdieu appelle le monde des hommes vraiment hommes. Hein, donc il y a un modèle de virilité qui est calqué sur l'expérience du soldat. Hein. Et voilà, le soldat, c'est l'emblème du masculin, en quelque sorte, en ce premier 19e siècle. Mais c'est un arc plus large que ça. Hein. Tout ça, ça prend pour cadre ce qu'on appelle le mythe de guerre, l'ère de la sacralisation de la guerre, qui court des guerres de la Révolution française en France, peut-être après 1918, mais ce mythe de guerre, cette sacralisation de la guerre, vous la trouvez aussi dans l'Italie fasciste ou dans l'Allemagne nazie. Hein. Donc ce mythe de guerre, il s'effondre plus tard dans d'autres pays, après 1945 sans doute, avec la montée des pacifismes. Mais dans cette ère-là, alors évidemment, on trouve hein, quand même, bien sûr, les sociétés européennes sont travaillées aussi par des mouvements pacifistes, mais il y a une prégnance du fait du militaire qui est très importante, parce qu'il est lié profondément à la vérité, à ce que c'est qu'être un homme au XIXe siècle. À l'époque, c'est l'âge d'or de la guerre est pensée comme un, comme un, elle est belle et glorieuse, c'est le point d'orgue de l'uniformologie. Hein, ce dont on rêve, ce sont les beaux uniformes de l'époque napoléonienne. C'est pas pour rien qu'en 14, les Français portent le pantalon Garance, encore rouge. Dans les premiers assauts, les Français partent avec un pantalon rouge vif, hein, et qui pose des problèmes parce qu'ils sont très visibles, du coup. Hein, et parce qu'on voulait garder quelque chose de cette esthétique héroïque, hein, d'un siècle plus tôt. Les Allemands et les Anglais, eux, avaient compris ça plus tôt. Ils avaient des tenues beaucoup plus discrètes au début de la guerre de 14. Hein, mais cette mémoire héroïque, elle est de très longue durée. Et qu'est-ce qui se passe en 14-18? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on passe de combattants au 19e siècle qui étaient des combattants redressés, qui combattaient debout. Hein, on enseignait pendant les guerres napoléoniennes aux jeunes recrues à ne pas baisser la tête sous la mitraille parce que c'était un honneur de faire face au feu. Alors, ce n'était pas le même feu qu'en 14. Hein. C'est des balles rondes qui étaient beaucoup plus lentes, beaucoup moins vulnérantes, beaucoup moins, voilà, avec des dégâts corporels bien moins importants. Mais on enseignait à ne pas baisser la tête sous la mitraille. En 14-18, c'est Stéphane-Audouard Rousseau qui a repéré cette bascule, parce qu'il faut, c'est une idée très simple, mais comme toutes les idées simples, elles sont dures à voir. On passe d'un corps redressé à un corps recroquevillé, prostré, voilà, des soldats qui face au mur de feu de l'armement moderne, face aux mitrailleuses, ne peuvent plus se tenir debout et qui essayent de présenter la moindre surface corporelle au feu ennemi. Et donc toute l'esthétique héroïque de la guerre qui venait du 19e siècle, elle en prend un coup à ce moment-là, un sévère coup. Et d'ailleurs, où se réfugie l'héroïsme pendant la Grande Guerre? Dans le ciel, dans la guerre des As, hein, qui devient la nouvelle guerre héroïque, hein, la guerre de von Richthofen, du Baron Rouge et compagnie. Hein. Donc vous voyez comment il y a une grande bascule, hein, qui s'opère avec la Première Guerre mondiale et plus encore avec la Seconde Guerre mondiale. On est sorti de cette ère de mythologisation, de sacralisation de la guerre. Et puis, on est rentré dans une période en Occident, hein, de haine de la guerre assez profonde, hein, même si on trouve bien sûr des franges de la population qui sont toujours attirées par la guerre. Hein. Et je fais un dernier exemple, parce que je ne veux pas être trop long, mais on pense par exemple à ces jeunes qui sont partis de Lunel, vous savez, cette petite ville du sud, hein, peut-être 20 jeunes qui sont partis en Irak et en Syrie il y a 3-4 ans. Qu'est-ce qu'on retrouve chez ces jeunes? Des choses que les sociologues et les historiens du fait guerrier connaissent bien, ce qu'on appelle des effets d'entraînement. C'est-à-dire que dans les mouvements de volontaires, très souvent, on part entre frères, on part avec son cousin, on part avec ses amis proches, hein, parce qu'il y a c'est une espèce de défi viril. On doit partir, on doit montrer qu'on n'a pas peur, on va tous combattre. Mais derrière ça, on cherche, comme tu le disais tout à l'heure, on cherche quelque chose. On cherche une intensité d'existence. Bien souvent, derrière tout ça, il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui, il y a une difficulté à donner sens à son existence, et donc on cherche des combats, hein, qui permettent de vivre plus, hein, de fabriquer à la fois du sacré intime et du sacré collectif. Et donc dans ces mouvements-là, on retrouve, évidemment, hein, je ne vais pas comparer nécessairement les djihadistes aux brigadistes de la guerre d'Espagne, c'est compliqué, mais derrière ça, il y a des logiques anthropologiques, des logiques sociologiques qui sont profondément communes. Hein, ces effets d'entraînement, on les voit partout, entre copains, cousins, frères. Voilà, ça fonctionne à la virilité classique. Voilà. Je lis juste peut-être une citation.
Au-dessus du temps. Hein.
Et puis, parce que je trouve que c'est pour vous donner une idée de ce qui s'est passé, justement, après la Première Guerre mondiale, une citation de Gustave d'Echtal, qui était un Saint-Simonien et qui était un philhellène, donc j'ai pu travailler sur lui à un moment. Voilà ce qu'il dit de l'après 1815. Nous n'avions plus ni solennité, ni temple. Pardon, ça commence plus haut. Nous n'avions plus les joies du guerrier. Nous n'avions plus de croisades à faire. Le temps était passé des expériences napoléoniennes. Nous n'avions plus ni solennité, ni temple, ni tournoi, ni chant, ni fête. La vie était terne et monotone, et Dieu avait mis dans le cœur de beaucoup d'hommes une énergie qui ne pouvait se ployer à cette contrainte. Voilà. L'éclipse des champs de bataille et toute une jeunesse qui, en fait, aspirait à l'héroïsme et qui ne peut pas le connaître. Vous trouvez ça, je vous conseille aussi la lecture de... J'ai appris à... Je pensais pas que Churchill écrivait si bien. En fait, j'ai appris plus tard qu'il était prix Nobel de littérature, je savais pas. Mais qu'est-ce qu'a fait Churchill en 1895? Il trouvait pas de champ de bataille ou faire preuve de cette virilité ou passer ce rite de passage à l'âge d'homme. Il part à Cuba pendant la guerre entre Cuba et les Espagnols, 1895, pour connaître cette épreuve du feu. Et voilà, il dit, tous les officiers d'Angleterre m'enviaient, hein, tout ce qu'ils voulaient, hein, un champ de bataille.
Alors, au passage, Churchill, il écrivait bien, mais quand il n'avait pas bu 4 verres de gin le matin. Mais là, tu faisais la comparaison, je rebondis tout de suite. Tu t'hésitais à comparer les brigades internationales de 36, tous ces jeunes, dont George Orwell, hein, qui vont s'engager en Espagne. Je me souviens très bien, quand la guerre en Syrie a commencé, la presse a fait cette comparaison-là. Et au passage, on peut aussi penser, je pense à deux, trois de mes étudiants qui se sont engagés après les attentats du Bataclan, hein, à ce désir de servir la nation française d'une certaine manière quand elle est attaquée. Donc c'est vrai que là, on voit bien, on ne peut pas considérer qu'on est exactement dans le même temps parce que les proportions ont complètement changé, hein, d'une certaine manière. Mais c'est ce qui est intéressant dans ce livre, c'est effectivement le long terme de ces catégories anthropologiques, hein, qui montrent que le désir de guerre, qui pouvait être massif à une certaine époque, existe encore d'une manière plus minimale. Alors, dans la manière dont tu en parlais, tu disais finalement la Première Guerre mondiale pour la France, la Seconde pour d'autres pays, ont finalement réglé leur compte, si on veut dire, à cet idéal, à ce mythe de la guerre. Et en même temps, ce que dit le livre, et que je trouve très intéressant, parce que le livre est vraiment attaché à la question de l'histoire des techniques. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire n'est pensable que parce qu'à un moment donné, des gens inventent le fermier Glidden en 1874, invente le barbelé. Et vous avez un très chouette livre qui s'appelle « Histoire politique du barbelé » de Olivier Razac.
Très grand livre.
Il essaye, le type essaie juste de garder ses moutons et on en arrive directement à l'univers concentrationnaire du XXe siècle. À Cuba.
Il n'a pas pu imaginer une seconde ce qu'on allait faire de son invention.
Alors,
à 40 ans. Hein. C'était un fermier de l'Illinois.
Oui, bon, c'est un Américain, donc il avait quand même déposé les brevets, hein, pour faire de l'argent, mais bon, ça, c'est autre chose. Et donc, je fais volontairement de la provocation. Ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale et ces 56 millions de morts, version restrictive, hein, qui ont fait sortir la guerre régulière de l'histoire de l'Occident. C'est l'invention de la bombe atomique. C'est-à-dire que, je continue sur la lancée, c'est-à-dire que finalement, sans la bombe atomique, on aurait pu imaginer une guerre régulière, interétatique, encore pire que la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, ça demande de la réflexion, et une réflexion pas très sympathique, parce que cette guerre-là a déjà été terrible. Et en fait, d'une certaine manière, on peut se dire que c'est la dissuasion nucléaire qui a fait entrer les puissances occidentales dans un ère post-guerre moderne. Et du coup, c'était un peu ma question, est-ce que c'est vraiment cet équilibre instable qui a fait sortir la guerre, la guerre régulière de notre univers ?
C'est une très belle question. Et quand je t'entendais la prononcer, je disais, en fait, il faut presque faire de l'histoire contrefactuelle, écrire l'histoire avec des si. Si vous enlevez l'hypothèse des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki et de la présence de la bombe nucléaire, hein, que se serait-il passé ? Il y a eu d'ailleurs un livre là que vous avez peut-être repéré qui s'appelle « Si les Français n'avaient pas gagné la bataille de la Marne ». Il y a des historiens, Stéphane Noiruzzo, Christian Ingrao et d'autres, qui se sont liés à des écrivains pour essayer d'imaginer ces autres possibles. Voilà. Un autre XXe siècle, en quelque sorte. Et il y aurait sans doute quelque chose à faire là. Moi, je suis d'accord avec toi, évidemment. Les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki le 6 août et 9 août 1945, hein, c'est 120 000 morts pour Hiroshima, 70 000 pour Nagasaki, hein, font passer un cap, une bascule absolument capital du point de vue anthropologique, du point de vue moral, bien sûr, mais du point de vue anthropologique aussi. Hein, le rapport des Occidentaux à la guerre et le rapport du monde entier à la guerre s'en trouvera complètement transformé après coup. Et ce qui se passe là, c'est en effet un équilibre de la terreur qui permet... c'est un peu paradoxal, qui permet la fin des guerres interétatiques de grande ampleur. Hein, mais en même temps, il y a un foisonnement de conflits dans les années 50, 60, 70, dans le monde entier, alors qu'ils sont la plupart du temps des guerres de décolonisation, mais qui sont toujours liées à la guerre froide. Il y a toujours, c'est à la fois des guerres de décolonisation, mais c'est toujours des guerres la plupart du temps liées à la guerre froide et des guerres civiles entre des communistes et des partisans nationaux, etc. Mais justement, ce que les historiens en ce moment sont en train de déconstruire, c'est une certaine histoire de la guerre froide héritée des relations internationales, en gros, voilà, sur l'équilibre des puissances, les moments de détente, de coexistence pacifique, les moments de crispation, le blocus de Berlin 48-49, la guerre de Corée 50-53, je vais en oublier au passage, Cuba 62, la guerre des Russes en Afghanistan 79, des moments de crispation, mais avec l'idée que tout ça finalement avait permis la paix et la fin des guerres interétatiques. Ce qu'on constate en effet, c'est que la pente, hein, les conflits dans lesquels les Occidentaux sont engagés dans l'après-Seconde Guerre mondiale font beaucoup moins de morts. Hein. Il y a beaucoup moins de pertes humaines du côté des armées occidentales. que pendant les deux premiers conflits mondiaux. Si vous prenez la guerre d'Indochine, je crois que c'est à peu près 40 000 morts côté français, 35 000, je crois, je dis à peu près, hein, la guerre de Corée du côté des Américains, 50 000 la guerre du Vietnam. Hein, ce sont des chiffres qui peuvent nous paraître considérables, mais 50 000 morts pendant la guerre du Vietnam, ça doit être deux mois de la Première Guerre mondiale.
Ah bah non, hein, pas deux mois. C'est 50 000 morts, c'est 10 jours sur le front est dans la Seconde Guerre mondiale.
Le front est, mais
et
alors,
pour la première, c'est deux fois Charleroi. C'est deux jours de la Première
Guerre
mondiale.
C'est pour vous dire. Par contre, donc il y a vraiment une décrue, hein, des pertes militaires dans l'après-45, dans tous les conflits dans lesquels les Occidentaux sont engagés. Mais si vous changez de point de vue, hein, si vous prenez le point de vue des Asiatiques, par exemple, là, tout à fait. Là c'est quelque chose que l'historiographie classique laisse de côté. Mais vous prenez le conflit de la guerre de Corée. Je crois que c'est 800 000 Coréens du Nord et Chinois, 200 000 à peu près Coréens du Sud, 1 million de morts civils. Enfin, vous voyez, c'est des chiffres totalement colossaux. Pareil pour la guerre du Vietnam. Hein, je crois que c'est près d'un million de Vietnamiens du Nord et de Viet Cong qui sont morts pendant ce conflit-là. Vous voyez la disproportion entre les pertes occidentales et les pertes ici asiatiques. Alors les chiffres sur les guerres en Afrique et les guerres en Amérique latine seraient sans doute moindres. Mais il faut absolument renverser la perspective sur la guerre froide et écrire une histoire de la guerre froide depuis des espaces non occidentaux, depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis l'Amérique latine, parce que ça s'éclaire tout d'un coup sous un tout autre jour. Et donc c'est aussi un des projets du livre que d'essayer de, même si c'est, on en reparlera peut-être, hein, c'est pas facile de décloisonner l'histoire de la guerre, parce qu'elle est souvent très stricto-occidentale, mais on a voulu une histoire ouverte le plus possible au monde.
Mais ce qui est intéressant, c'est finalement, enfin, comme toute bonne entreprise, il y a des passages sur les stratégies du zéro mort. C'est-à-dire que quand une armée occidentale plus récemment s'engage, c'est vraiment beaucoup plus de gens travaillent dans la logistique, dans le médical, et on en arrive à des taux de perte vraiment très faibles, comme tu le dis, et accentuer non, mais en tout cas, les taux de perte en face, notamment dans ces guerres de la guerre froide, elle reste le même. Et du coup, moi, c'est vrai que ça me fait penser comme une entreprise qui externalise ses problèmes, qui a des externalités. Finalement, l'Occident a d'une certaine manière externalisé la guerre, que ce soit dans sa gestion ou dans ses conséquences. Ça m'amène à l'avant-dernière question, parce qu'il faut qu'on laisse du temps pour que vous puissiez en poser, évidemment. Tu le soulignes, et c'est dit textuellement, hein, à un moment où, dans la presse, on vous parle très souvent d'histoire mondiale, d'histoire internationale. Ce livre a beau réunir 57 chercheurs anglo-saxons, européens, ou de certaines aires culturelles. Vous le déplorez en introduction, mais en l'assumant, c'est pas une histoire mondiale. Et notamment, comme tu le dis, hein, les guerres et l'histoire militaire, c'est pas un secret, ont souvent été, au sein même de l'université, hein, des facultés, enfin des matières très très nationalement étudiées. C'est-à-dire qu'on faisait l'histoire de l'armée française et de l'autre côté on faisait l'histoire de l'armée allemande, etc., etc. Et du coup c'est difficile d'écrire cette histoire de manière internationale et notamment du point de vue des dominés, c'est-à-dire de ceux qui, pour le coup, guerre froide ou pas, ont eu à subir un certain nombre de guerres. Je donne des exemples, mais toujours les mêmes, les guerres coloniales. Des chiffres qui commencent à émerger. Les Belges arrivent au Congo. Il y a 20 millions de personnes, ils en partent. Une fois qu'ils se sont installés, il en reste 10 millions. Ça fait 10 millions de morts, ça fait la moitié de la population qui est morte. Comment, d'une certaine manière, et ce n'est pas l'objet de ce livre, mais peut-être d'un futur projet, qu'est-ce que ça donnerait d'écrire une histoire de la guerre par en bas ? Non seulement d'un point de vue par en bas, les individus, ça vous le faites, vous parlez de toutes les formes de dominés dans toutes les guerres, les femmes, les enfants qui sont étudiés par Manon Pignot, etc. Mais que donnerait une histoire internationale écrite à plusieurs mains de la guerre du Vietnam, de la guerre de Corée, de l'opération, des différentes opérations de la guerre froide comme l'opération Gladio, l'opération Condor, etc. Écrite, voilà. Alors tu dis histoire contrefactuelle, là c'est plutôt dans le futur. Comment on pourrait écrire une histoire internationale de la guerre?
Alors je vais peut-être répondre parce que tu parlais de la doctrine du zéro mort avant de répondre à ta question, parce que je trouve que c'est passionnant. Hein, c'est voilà, on supporte de moins en moins en Occident de nos propres pertes. Hein, et donc la doctrine du zéro mort, moment, elle est très importante. C'est pour ça qu'on emploie de plus en plus des drones, hein, où on tue l'ennemi sans prise de risque, à distance, hein, j'allais dire parfois en pantoufle, avec un joystick. Hein, et c'est quelque chose qui s'est développé. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Hein. Des drones, ça existe depuis la Première Guerre mondiale. Hein, mais en tout cas, ça se développe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu aussi, avant même la doctrine de zéro mort, c'est la limitation absolue de nos pertes, il y a aussi un moment de la guerre du Golfe en 91, où les états-majors étaient même obligés étaient obligés de présenter les pertes ennemies les moins élevées possibles. Il s'agissait aussi de faire le moins de morts possibles chez l'ennemi. Hein, on parlait de la guerre propre, un concept fallacieux par excellence, mais pendant la guerre du Golfe, la guerre 91, je suis perdu là. Oui, c'est la guerre du Koweït. et on parlait de guerre propre. Aujourd'hui, avec les terroristes, on cache moins, si on peut leur faire du mal, on cache moins les pertes ennemies. Mais à un moment, on est arrivé à cacher nos pertes et les pertes des ennemis. Et ça dit une évolution des sensibilités collectives à la mort en temps de guerre. Hein, on serait incapable d'accepter les sacrifices. Imaginez, la Première Guerre mondiale, c'est 900 morts français tous les jours pendant 4 ans et demi. 1300 Allemands, 1450 Russes tous les jours pendant 4 ans et demi. Hein, quand on quitte les millions et qu'on ramène ça au jour le jour, mais comment de telles sociétés ont pu accepter des saignées pareilles. Je reviens du coup à ta question. L'ambition du livre était d'essayer donc de décloisonner cet objet guerre qui était en effet le lieu d'une histoire avant tout nationale, souvent patriote, enseigner la gloire de nos victoires si possible à la jeunesse. Ce qui se passe, il y a un moment assez intéressant, par exemple sur l'histoire de la Grande Guerre, c'est le moment où l'historial de Péronne, le musée de Péronne a été construit. Il y a un centre de recherche qui a été fait en même temps. Et l'idée, c'était de porter une histoire européenne de la Grande Guerre. Non plus juxtaposer une histoire française, allemande, anglaise, mais dans ce centre de recherche, il y a des historiens allemands, des historiens français, des historiens irlandais, australiens, français, etc., pour faire en sorte de faire une histoire comparée et une histoire pleinement européenne de la Grande Guerre. Ça se développe de plus en plus. Mais c'est une chose de... Mais comment sortir du cadre européen ou du cadre occidental? Et là, ça s'avère souvent plus compliqué. Alors, il y a beaucoup de choses ici sur l'Inde, sur la Chine, un peu sur l'Afrique du Sud. Il y a vraiment des points de vue un peu sur l'Amérique latine, les guerriers en Amérique latine. Mais écrire une histoire du point de vue des dominés, hein, des colonisés, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'avais essayé je m'étais lancé après la thèse, j'ai écrit quelques articles sur l'histoire des guerres coloniales. Mais quand vous voulez faire une histoire, comme disait Romain Bertrand, à parts égales, si vous voulez passer de l'autre côté, écrire une histoire qui ne soit pas seulement une histoire de l'expansion européenne, une histoire du point de vue européen, mais en allant voir, en essayant d'embrasser le point de vue des autres, hein, des dominés... c'est parfois très compliqué parce que parfois vous n'avez pas de source. Hein. Parfois vous n'avez pas sur l'Afrique équatoriale sur laquelle j'essayais de travailler. À un moment vous êtes face à l'absence d'archives, l'absence de sources et vous pouvez pas avoir très difficilement ce contrepoint. Hein. Et donc il y a un problème archivistique, il y a un problème de compétences linguistiques aussi, hein, très clairement. Hein, mais en tout cas, l'horizon, à mon avis, de la recherche ici, c'est vraiment d'essayer de... Il y a plein d'endroits où c'est possible, les sociétés asiatiques, tout ça, mais d'essayer de construire une histoire de moins en moins occidentalo-centrée. Hein. Et une histoire, qu'est-ce que donnerait une histoire... par exemple, juste un jeu de l'esprit, et après, surtout, je vais faire court, mais regardez ce qu'on peut gagner à imaginer... si on regarde la Deuxième Guerre mondiale du point de vue japonais, nous, on pense toujours 39-45. Là, ici... Pour un Japonais, la Seconde Guerre mondiale, ça commence en 1931 avec l'invasion de la Mandchourie. Ça devient encore très fort en 1937 avec la guerre sino-japonaise, ça croit. Et puis ça se termine en 1945. C'est une guerre de 15 ans qu'ils appelaient la guerre d'Asie-Pacifique. Les Américains leur ont interdit de l'appeler comme ça, hein, ensuite, les Japonais. Mais si vous prenez, le point de vue de la guerre, le point de vue chinois, la Seconde Guerre mondiale s'arrête en 1949 et pas en 1945. Pour les Vietnamiens, 1975, pour les Coréens, 1953. Donc, en jouant sur les chronologies, en essayant d'épouser les chronologies des autres, tout d'un coup, c'est tout l'objet de la Seconde Guerre mondiale qui est vu sous un autre jour. C'est pas seulement un jeu de l'esprit, ça amène vraiment des effets de connaissance, je pense, des effets d'intelligibilité.
Et puis, c'est assez drôle, hein, les Russes, ils parlent de la Grande Guerre patriotique qui commence en 1941. Et en Pologne, c'est un peu bizarre, ils ne le voient pas tout à fait de la même manière. Pour eux, la guerre, elle commence le 17 septembre 1939. Alors même, Il y a plusieurs mémorials à Varsovie pour rappeler ça, hein, pour bien marteler le fait que non, l'URSS ne s'est pas défendue contre les hordes nazies, mais qu'elle a bien pactisé avec elle pour attaquer la pauvre Pologne. Mais c'est vrai que ça, c'est des effets de décentrement.
Décloisonner, désencastrer les chronologies auxquelles on est habitué pour les voir. Et on pourrait dire la même chose de la Première Guerre mondiale, hein, si on regarde du point de vue balkanique. Ça commence avec les guerres balkaniques en 1912, hein, et puis ça va, les guerres gréco-turques qui poursuivent jusqu'en 1922, hein, c'est 10 ans, c'est pas 4 ans, par exemple.
Et là je rebondis juste, moi je me souviens très bien, ça fait un petit moment en tant que prof, hein, que je faisais le cours sur la Seconde Guerre mondiale en commençant du point de vue japonais, et si vous voulez vraiment tomber de votre chaise, regardez le documentaire qui s'appelle « Know Your Enemy Japan », « Connaître son ennemi, le Japon », qui a été fait par l'armée américaine et par un grand réalisateur. Et en fait, on est toujours focalisé sur le racisme et évidemment du projet hitlérien, et c'est une évidence, mais le degré de racisme de la guerre américano-japonaise, si je veux dire, avec des Japonais représentés comme des rats, comme des singes, dont on explique qu'ils vont vous trahir, etc., c'est très... exotique au bon sens du terme, parce qu'on est pris dans nos catégories, mais ça décentre complètement le regard et ça invite vraiment à penser les choses d'une nouvelle manière. Alors peut-être une toute dernière question là qui est vraiment personnelle, et ensuite on passera la parole à la salle. Comme je vois que tu es coordinateur, c'est juste pour te faire parler du concret, et qu'il y a 57 auteurs, comment ça s'est passé? En quelle langue vous avez bossé? Est-ce que
dur.
C'était sympa ou voilà, c'était juste pour...
C'était ça, oui, non, c'était...
C'est quoi le travail
c'était
derrière un
sympa
résultat
dans l'ensemble, mais ça a quand même duré, je dis 5 ans, mais en fait ça a duré plutôt 6. Et il fallait déjà s'organiser tous les 4, parce qu'on est 4 coordinateurs avec Bruno Cabane à la direction, mais... ils vivent tous les 3 aux États-Unis, un dans l'Ohio, l'autre à New York, l'autre à Boston, et puis moi je suis à Paris. Donc déjà rien que pour organiser les réunions, parce qu'on a travaillé par Skype.
Qui te levais ?
Ça tournait un peu, mais c'était parfois très tard, c'était très compliqué. Et finalement on s'est jamais retrouvés tous les 4 ensemble dans une même pièce, jusqu'à ce qu'on fasse un peu de promotion ensemble sur les... On a travaillé comme ça et en même temps en bonne intelligence, donc ça a été. Mais après, quand vous travaillez avec 57 auteurs, je crois qu'il y a 8 nationalités, il y a des gens qui traînent, qui vous rendent pas les textes ou qui ont pas bien compris l'exercice, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que
t'as le droit de dire les noms.
Non, pas vraiment, mais on les a sortis un peu de leur zone de confort, parce qu'évidemment les chercheurs, comme tu le disais, on est spécialiste d'une période, d'un moment, et pour nous écrire sur, même si on est familier d'un objet, je sais pas, les bombardements, etc., mais écrire sur 2 siècles, ça nous effraie, hein. Et donc certains essayaient de se cantonner à une histoire un peu restreinte ou occidentalo-centrée, n'allant pas chercher des exemples ailleurs. Donc il a fallu sortir un peu tout le monde de sa zone de confort, et ça, c'était pas nécessairement très simple. Il y a pratiquement 40% de traduction aussi. Là aussi, il y a des choses qui se perdent parfois dans les traductions. Hein. Donc, voilà, ça a été. Je dirais que je fais ça une fois dans ma vie, peut-être 2, mais pas plus. Voilà, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Après, on est évidemment très heureux de l'objet final et d'avoir pu faire se croiser de très grands spécialistes de la guerre. Ça, c'est vraiment Bruno Cabane, le directeur, qui a vécu ça dans sa chair, j'ai envie de dire. Il est parti enseigner aux États-Unis à Yale il y a une quinzaine d'années. Et il voyait aussi combien le rapport à la guerre était très différent aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, la présence de la guerre civile américaine, de la guerre de sécession est immense. La Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre du Pacifique, avant toute chose. Il y a évidemment le poids de la guerre du Vietnam. Donc déjà, ça, c'était un effet de décentrement un peu fort. Et puis, c'est une histoire de la guerre peut-être un peu plus classique. Il n'y avait pas... Notre histoire à nous, elle est peut-être plus culturelle, plus sociale, plus anthropologique. Et donc, son idée, c'était aussi, parce qu'il le vivait comme, un dilemme existentiel, enfin, un divorce intérieur assez fort, de faire se réunir tous ces chercheurs pour essayer de faire un trajet commun. Voilà.
Et le résultat, j'ai bien aimé la petite jaquette de mon exemplaire. Ça donne effectivement un livre événement, un des blockbusters de la rentrée, hein, ça c'est sûr. Et je pense que ça valait largement les efforts. On peut dire en blague que tu es en post-traumatic stress disorder,
voilà,
peut-être en PTSD de ce livre. Mais en tout cas, ça valait le coup. Voilà. Merci d'avoir été là.
Merci beaucoup,
à Hervé d'avoir été là. Et puis, vous pouvez venir poser les questions. Merci à Molin et merci pour cette bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci à vous.